VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous. Midi à Kinshasa, ce sont au moins 34 personnes qui ont été tuées par les forces de sécurité lors des manifestations contre le président Joseph Kabila en République démocratique du Congo, d'après l'organisation Human Rights Watch. Ida Sawyer, la directrice de cette organisation des droits humains pour l'Afrique centrale, a précisé sur son compte Twitter que tous les décès s'étaient produits lors des premières manifestations de mardi demandant le départ de Joseph Kabila, dont le mandat est arrivé à terme. L'ONG procède à des vérifications concernant d'autres morts, a précisé Ida Sawyer. Le gouvernement congolais avait annoncé un bilan de 22 tués, dont un policier. Et à Lisala, dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo, le gourou d'une secte, Wami Nene, s'est autoproclamé président de la République le 20 décembre, date de la fin du mandat du chef de l'État congolais, Joseph Kabila. Un affrontement s'en est suivi entre ses partisans et la police. Bilan, 14 miliciens abattus et 3 policiers tués. La situation était revenue au calme ce jeudi, d'après les autorités locales. Située sur le fleuve Congo, en pleine forêt équatoriale, à environ 1000 km au nord-est de Kinshasa, Lisala est la capitale de la province de la Mongala. Et des affrontements entre des milices Hutus et Nandais ont également coûté la vie à 17 civils et à un policier dans l'est de la République démocratique du Congo, indiqué un porte-parole de l'armée. Certains ont été tués par balle et d'autres à l'aide de machettes, a précisé le capitaine Guillaume Djuke. Les combats ont opposé la milice Nandais, Baïmaï, Mazembe et des combattants Hutus Nyatura, a déclaré un militant local. Et l'armée congolaise a bouclé aujourd'hui, ce matin, un quartier de Lubumbashi où elle a procédé à des arrestations massives d'individus de sexe masculin. D'après l'AFP qui cite des riverains, le bouclage du quartier Machi Picha, Badolité, dans le sud de la deuxième ville de la République démocratique du Congo, a commencé au lever du jour vers 5 heures du matin, heure locale. Cela dit, au lendemain d'une journée de violence meurtrière, pouvoir et opposition ont renoué le dialogue sous l'égide de la Conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO. Les évêques catholiques proposent une solution médiane pour trancher les divergences qui persistent aux négociations directes entre l'opposition qui avait boycotté le dialogue et le camp majorité au pouvoir et opposants signataires de l'accord du 18 octobre. Georges Kapiemba, l'un des 16 membres retenus dans la commission restreinte des travaux, lève un coin de voile sur les discussions.
Globalement, il y a eu quand même des avancées sans entrer dans tous les moindres détails.
Mais il y avait des divergences jusqu'à ce que les travaux soient suspendus. Mais qu'est-ce qui a changé depuis?
Ayant entendu les uns et les autres, ont promis de faire une proposition de prendre en compte le point de vue de chacune des parties et à leur proposant des solutions médianes.
Est-ce que c'est déjà là les plans B dont ont parlé les évêques?
Bon, moi, je n'avais jamais entendu parler des plans A et B. Je vous fais juste un compte rendu de la manière dont les choses se sont déroulées.
Si les évêques doivent trancher, ça veut dire que vous n'êtes pas encore arrivé à vous entendre?
Non, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des divergences, même une seule, il peut toujours faire intervenir le médiateur, et c'est ça leur travail, de prendre les divergences en main et proposer aux parties une solution de sortie.
Qu'est-ce qu'on peut retenir, parce que le point qui opposait les partis, c'était entre autres l'avenir du président Joseph Kabila, mais aussi les limites de son pouvoir.
Je ne peux rien vous dire jusqu'ici. Attendons voir ce que sera le contenu de la proposition que les Congolais pourront faire demain.
Georges Kapiemba, coordonnateur de l'Association congolaise pour l'accès à la justice aux négociations directes conduites par les évêques catholiques à Kinshasa, il a été joint par Eddy Sango. Et l'Église catholique a exigé mercredi qu'un accord soit trouvé avant la fête de Noël pour sortir la RDC de la crise provoquée par le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila. La situation en RDC est suivie de près dans la région, surtout au Congo voisin. Là-bas, de l'autre côté du fleuve, les opposants du président Denis Sassou Nguesso espèrent qu'une réussite du processus démocratique en RDC aura des effets positifs à Brazzaville. Marc Mapingu est porte-parole à l'étranger du général Jean-Marie Michel Mokoko, aujourd'hui en prison. Voici sa perception de la crise en RDC.
Nous sommes tristes que notre dossier ne soit pas effectivement vu de la même manière que certains dossiers. Mais ce qui nous encourage au moins, c'est que le peuple du Congo démocratique qui réclame la liberté et toutes ces générations qui ont d'autres attentes soient accompagnées justement par cette communauté internationale. C'est tout notre espoir. Et nous estimons qu'il y a un pont. Un artiste congolais qui, à l'époque, parlait du pont sur le Congo. Nous estimons tout simplement que si demain, les démocrates du Congo démocratique arrivent à terrasser la dictature d'une manière ou d'une autre, mais qu'en traversant le Congo, donc sur ce pont du Congo, bien sûr, on fera tomber aussi une autre dictature qui sévit et qui fait mal aujourd'hui à tous les Congolais et à tous ceux qui croient en la démocratie.
Marc Mapingu, opposant au Congo, au Brazzaville.
Vous êtes sur VOA Afrique, à Brazzaville, sur le 101.9 FM.
Israël a demandé aux États-Unis d'opposer leur veto à un projet de résolution présenté par l'Égypte au Conseil de sécurité de l'ONU, exigeant un arrêt immédiat de l'implantation de colonies israéliennes de peuplement en Cisjordanie. Les 15 membres du Conseil doivent voter sur ce sujet ce soir à 20h GMT. Le projet de résolution demande qu'Israël cesse immédiatement et totalement toutes ses activités d'installation dans les territoires palestiniens occupés, y compris à Jérusalem-Est. La Maison-Blanche n'a pas fait de commentaire. L'évacuation des derniers insurgés civils souhaitant partir du réduit d'Alep en Syrie se poursuivait aujourd'hui après des navettes de dizaines de bus toute la nuit, a annoncé le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, le porte-parole du CICR en Syrie, Inji Sedki, interrogé par l'AFP, a émis l'espoir que les évacuations s'achèvent ce jeudi, une semaine après le début de l'opération, dont la fin permettra au régime de signer sa plus importante victoire en près de 6 ans de guerre. Le dialogue entre la Russie et les États-Unis est gelé à presque tous les niveaux, a affirmé hier le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, alors que les relations entre les deux pays traversent la pire crise depuis la fin de la guerre froide. Gabi Dorsil pour les détails.
Deux dossiers constituent les principales pierres d'achoppement entre Washington et Moscou, le conflit syrien et la crise ukrainienne. Les Américains et leurs alliés n'ont toujours pas digéré l'annexion de la Crimée en 2014 et le soutien présumé de la Russie aux rebelles dans l'est de l'Ukraine. En Syrie, la crise d'Alep-Est a mis en lumière l'ampleur des désaccords entre les deux pays. Mais si Moscou qualifie le dialogue comme étant au point mort, le département d'État souligne que l'engagement diplomatique à l'égard de la Russie tenait toujours sur un grand nombre de questions, notamment sur le dossier syrien, pour répéter le porte-parole John Kirby. Le secrétaire d'État John Kerry et son homologue russe Sergei Lavrov se sont entretenus par téléphone à 3 reprises depuis le début du mois, mais sans succès. « Nous ne nous communiquons pas ou réduisons au minimum les contacts », a dit le porte-parole du Kremlin. Et ce nouveau dossier de piratage électronique pour influencer l'issue de la présidentielle américaine du 8 novembre n'est pas pour arranger les choses. En attendant bien sûr que le pouvoir change de main à Washington le 20 janvier, puisque Donald Trump et Vladimir Poutine ont tous deux exprimé l'espoir d'un dialogue constructif.
Vladimir Poutine a ordonné aujourd'hui le renforcement en 2017, de la force de frappe nucléaire russe afin de la rendre capable de percer tout bouclier antimissile comme celui que Washington entend déployer en Europe orientale. Le chef de l'État russe avait déjà annoncé en juin 2015 le déploiement au sein des forces nucléaires de plus de 40 nouveaux missiles balistiques intercontinentaux à même de percer les systèmes de défense antiaérienne les plus sophistiqués en réponse au projet américain d'installation d'armes lourdes en Europe de l'Est. Le marché de Noël de Berlin, frappé lundi soir par un attentat au camion Bélier, va rouvrir aujourd'hui, plus de 2 jours après l'attaque qui a fait 12 morts et des dizaines de blessés, selon les sociétés chargées de sa gestion, qui précisent que la décision a été prise en étroite coordination avec les autorités. L'auteur présumé du carnage revendiqué par le groupe État islamique est un Tunisien de 24 ans, Anis Amri, toujours en fuite. Il est recherché par les autorités allemandes qui ont lancé à son encontre un mandat d'arrêt européen. Et puis, 4 travailleurs humanitaires et 7 civils ont été tués par des tirs d'artillerie à Mossoul, la grande ville du nord de l'Irak, que l'armée tente de reprendre au groupe djihadiste État islamique, a annoncé aujourd'hui l'ONU. Dans un communiqué, Liz Grand, coordinatrice des opérations humanitaires de l'ONU en Irak, a condamné dans les thèmes les plus forts ces tirs d'obus de mortier. Merci de nous avoir suivis. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes avec Henri Francis. Pour ma part, je vous dis bon après-midi. sur le continent, partout où vous vous trouvez.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.